Voilà.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Ah oui. Eh bien, notre cher Redan, il avait composé cette merveille il y a déjà quelques années, mais ça ne s'est pas arrangé depuis. Et non. Et moi, je pensais faire le contre-histoire d'aujourd'hui rien moins que Juan Branco, qui devait nous visiter à Toulouse hier. Et puis, j'espère beaucoup qu'il va très bien et que l'annulation de sa réunion, de son débat à la fac Jean Jaurès est de son fait et pas causée par des soucis politiques. Parce que Juan Branco est quelqu'un de redoutable pour le pouvoir actuel. Juan Branco caractérise notre 21e siècle et ses vedettes politiques, Macron en particulier. Il a fait un livre dont on commence à parler, Crépuscule de Macron. L'enquête qui fonde cet ouvrage date d'octobre 2018. Juste avant la mobilisation des Gilets jaunes. Alors, toute vérification faite, voici donc, en complément de la dite enquête, le livret Crépuscule qui veut voir la fin du macronisme. Nous sommes au bord du gouffre, c'est certain. Et voilà pourquoi et voilà comment. Alors quelques-uns ont pris le pouvoir pour s'en partager égoïstement les fruits, entraînant les révoltes actuelles. Et après un an, la moitié du pays veut se débarrasser de Macron, qui est pourtant l'élu du peuple. Élu, peut-être, mais par défaut, par désespoir, organisé par les médias complices. Complices, allons bon. Comment complices? Et pourquoi complices? Eh bien, parce que 90% des médias sont tenus par quelques milliardaires, très 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 proches des politiciens aux commandes. Et aucune politicien ou politicienne, aucun média ne réclame finalement le départ de Macron, sauf Canal Sud, malgré les cris de la Vox Populi. Sauf les Gilets jaunes traités avec condescendance, sinon diffamation. C'est pourtant le rôle du cri du peuple que prétend être la presse. La République est en danger. Tous au rond-point, seul lieu de libre expression et d'avenir, sinon de salut, car c'est vrai que ce n'est pas sans risque. Un petit groupe de milliardaires, donc. Bernard Arnault et sa fille Delphine en tête, Xavier Niel, son gendre, Arnaud Lagardère, Patrick Drahi, Brigitte Tettinger et son mari Jean-Pierre Jouyet, etc., etc. Un petit groupe de milliardaires, donc, a pris en secret les commandes de l'État par copinage corrupteur et alliances opportunes. Ils ont mis leurs amis et leurs valets aux manettes des différents pouvoirs. Les médias qui leur appartiennent leur servent de relais pour créer des images de marque prestigieuses et familières à ceux, à celui surtout, qu'ils veulent faire tout puissant. Ainsi, ils donnent un air de légitimité à des élus inconnus hier qui pataugeront à l'Assemblée nationale, certes rajeunis, mais plus que jamais peuplé de godillots. Et les godillots, ce qu'on appelait, quand j'étais enfant, c'était les députés à genoux devant De Gaulle. Et tous restent sourds aux appels d'un peuple trompé, dépossédé et surtout méprisé. L'État, qui doit protéger les citoyens, n'apparaît plus qu'en flic robotisé, semant terreur et estropié, arrachage des yeux par-ci ou de main par-là, attaquant jusqu'aux vieilles femmes pour affirmer son autorité. C'est ça la recette pacifiste macronienne. Et le pouvoir en fait et défait les comptes rendus en choisissant soigneusement les journalistes à sa botte, quand ce n'est pas le président lui-même qui se déshonore un peu plus en conseillant plus de sagesse à une de ses victimes septuagénaire sur son lit d'hôpital. On peut parler du parcours obscur et chaotique d'Édouard Philippe, par exemple. Entre Areva et son mandat municipal du Havre, Édouard Philippe sortit du chapeau du prestidigitateur Macron pour devenir le chef du gouvernement de notre pays. On peut parler aussi de la police privée du prince, recrutée par Alexandre Benalla, selon le modèle fourni par Bernard Arnault et un ancien directeur de la DGSI, qui s'appelle Bernard Scarsini, mis en examen aujourd'hui pour avoir mis ses équipes et les services secrets du pays à la disposition de LVMH, rien que. Ces petites cachotteries dissimulent les origines de ce pouvoir qui nous échappe complètement. Alors même que nous avons élu, apparemment, régulièrement, Emmanuel Macron. Porté en réalité par des millionnaires jamais présentés au suffrage et peu soucieux de démocratie, qui en ont Xavier Niel, Jean-Pierre Jouyet, Patrick Drahi, etc., etc. Et la stigmatisation des Gilets jaunes en violents qu'ils ne sont pas, tentent de brouiller les pistes, alors qu'ils sont les seuls lucides et indépendants de ce pouvoir corrupteur, les seuls à véritablement défendre la démocratie. C'est quoi la violence des Gilets jaunes? La violence illégitime n'est pas dans les débris du Fouquet's. Elle est dans les mains arrachées, dans les yeux crevés, dans la mort de l'aïeul défigurée par la grenade et dans la jeune fille au crâne fracassé par un flic quand elle était déjà à terre. La soi-disant violence contre les banques, la haute couture ou les restaurants inaccessibles, c'est seulement la colère. Libératrice et joyeuse, préméditée sans doute, mais combien légitime. C'est la violence des angoissés permanents, des affolés du découvert, des cibles des huissiers, des victimes des dictatures patronales. Alors d'un coup, la peur change de camp, et c'est justice. La violence est un échec de communication. Et cet échec a été préparé pour brouiller les cartes et faire élire un Macron que personne ne souhaitait. Macron n'est plus ce brillant jeune homme débordant d'enthousiasme et d'énergie qui conquit la France à coups de sourire. Corruption et passe-droit se découvrent peu à peu et resserrent autour du président un filet inattendu.
Bye. chino ke cha ki konde ke cha ki konsa cho ke cha ki jaware mochi lam a che
C'est bien cette musique pour se calmer, hein? Et on va en avoir besoin. Le livre Mimi, édité chez Grasset, et œuvre de deux journalistes d'investigation et d'un écrivain, révèle le matraquage médiatique imposé à la population pour créer une image de marque présidentiable de Macron. Opération menée avec l'aide de Xavier Niel, patron de Free, et le dévouement éclairé de Gala, de VSD, de Paris Match, etc., etc. Enfin, tous ceux qui travaillent au niveau télé-réalité, quoi. Mimi raconte le deuxième acte de l'ascension de Macron, après son opération de séduction du tout Paris, qui le fit ministre. Eh bien, les bas-fonds les plus sordides font partie du casting, juste dans l'ombre de ce tout Paris si classe. L'enquête de Jean-Michel Décugy, de Pauline Guénat et de Marc Le Plongeon révèle qu'un ancien proxénète, devenu milliardaire, puis oligarque, un certain Xavier Niel, rencontra Michel Marchand, incarcéré pour trafic de drogue, et qu'il s'associa avec elle pour partir à l'assaut des fortunes du pays. C'est même lors de son séjour dans le secteur VIP de la prison de la Santé que Xavier Niel contacta le réseau qui le conduisit à Mimi, alors en pension à Fresnes. Une avocate commune présenta Xavier et Mimi. Xavier Niel s'est refait une vertu dans l'éthique, hein, les techniques d'information et de communication, Free et autres médias de pointe. Et il a placé Louis Dreyfus à la tête de cet empire comme super DRH. On sait donc que moins de 10 des plus grosses fortunes du pays possèdent 90% de la presse écrite, afin de contrôler leur image. Xavier Niel semble pourtant porter encore quelques traces de ces enveloppes ayant alimenté un réseau de prostitution dont il ne garde malheureusement pas le souvenir. Le livre « Mimi » révèle pourtant d'autres entorses à la bienséance française. Les dominants chez nous sont censés être exemplaires, ce qui fait accepter, peu ou prou, leurs privilèges et leur pouvoir. Si ce prestige s'effondrait, l'édifice suivrait, peut-être. Le Monde, propriété, avec l'Obs, de Xavier Niel, n'a rien dit de tout cela, ni de tout ce qui suit. Xavier Niel, ami de longue date d'Emmanuel Macron, a mis sa fortune et son réseau en marche pour le rendre éligible, quand il n'était qu'un inconnu encore. Niel possède des participations minoritaires dans la quasi-totalité des médias français. Les journalistes n'ont jamais révélé ces liens, ni la mise à disposition des ressources de Niel à Emmanuel Macron. Mise à disposition qui remonte au moins à 2010. Infraction flagrante au code électoral et aux réglementations sur les frais de campagne. D'autre part, la fortune de Xavier Niel dépend du gouvernement. C'est ce qui en fait un oligarque. Car si l'État retire les licences téléphoniques octroyées à Free, la tirelire de Niel s'effondre immédiatement. Cette dépendance est si grande que François Fillon avait, semble-t-il, décidé d'attribuer une licence téléphonique à Free, dont Niel est propriétaire à plus de 50%, pour emmerder Sarkozy. Dixit Xavier Niel à l'élégance proverbiale. Car Sarko déteste Niel, et réciproquement. Sarko étant, comme on sait, ami de Bouygues et de son yacht, lequel Bouygues tremble devant la puissance financière de Niel, lequel Niel use de la presse qu'il possède et maîtrise, exactement comme le fait Bouygues avec son défilé de grands patrons aux 20h de TF1. Pour avoir à sa main l'autre partie du patronat français.
Zagubi kuzumele ke medigavali, negili najde kuzumele ke negili najde, negi nemeri podole mado, mama gi najde, najde gi turi v šarini rakli, primoj te da. Kugagi vidiš kuzumele, ke kugagi vidiš. Za men si spomnjaj kuzumele, ke za men si spomnjaj. Mesmo sem querer, vem.
Mais Xavier Niel est prévoyant. Il s'occupe d'avenir et va prospecter dans la fine fleur de la haute bourgeoisie, celle qu'il découvre dans les grandes écoles et invite à dîner aux meilleures tables pour leur faire envisager des lendemains qui chantent. Juan Branco compte plusieurs centaines de hauts fonctionnaires ainsi influencés, comme il dit poétiquement, à l'âge où la chair est encore tendre et les idées mal formées. On peut se demander si, en l'absence de Xavier Niel à la tête de ce système, les élections de 2017 auraient eu le même résultat. Fort heureusement pour Emmanuel Macron, personne n'a soufflé mot de cette organisation pourtant bien connue du petit Paris des milliardaires et des médias. C'est d'ailleurs chez Xavier Niel, dans sa couveuse à start-up, construite avec l'aide d'Anne Hidalgo, maire de Paris, et les ressources de l'État, que Macron a eu ce petit mot doux de « rien » pour désigner le peuple français non issu de cette aristocratie moderne qu'il chouchoute, forme et promeut. Le premier adjoint de Madame Hidalgo se trouve, par hasard, être un très ancien membre de Free. Le second adjoint venant de chez Bernard Arnault, le beau-père de Xavier Niel. Et c'est dans ses visites surmédiatisées de l'Empire Niel que Macron s'est construit un profil de novateur, sinon de bienfaiteur de la nation de demain. Le président qu'il nous faut. Mimi, le livre de Jean-Michel Descugis, Pauline Guénat et Marc Le Plongeon, révèle que Niel et Michel Marchand, deux êtres liés par la pègre et restés proches de celle-ci, se sont alliés pour faire élire un inconnu à la présidence de la République pour qu'ils servent leurs intérêts. Et encore, que c'est Xavier Niel qui proposa à Michel Marchand de s'occuper de l'image de marque du couple Macron. Mimi, aujourd'hui reine de la presse People, arrêtée un jour au volant d'un camion bourré de haschich. Mimi, qui sait tout avant tout le monde et qui sait s'en servir. Mimi, la mafia et la police. Mimi, ses hommes de main et ses paparazzi, ses menaces, ses corruptions, ses victimes. Mimi, grande amie du couple Macron. Mimi, qui fut présentée à Brigitte Macron par Xavier Niel, qui lui demandait de faire d'Emmanuel le jeune premier idéal. Après avoir fait taire une rumeur attristante. Cette transformation demanda ou entraîna 29 couvertures de Paris Match et autres supports de contes pour enfants. Paris Match, propriétaire Arnaud Lagardère, qui a fait de Mimi la véritable directrice de la rédaction. Lagardère, qui fut client du banquier Macron. Lagardère, qui prêta son homme de main Ramzi Kiroun à Macron, dès son arrivée aux finances, afin de surveiller sa com. Lagardère, oligarque lui aussi, puisque la fortune dont il a hérité s'est construite grâce à l'État, dans les rachats successifs d'entreprises en difficulté. Fortune d'ailleurs allègrement dilapidée. Quand le directeur de la rédaction de Paris Match devait être démissionné à l'été 2018, Brigitte Macron s'y est opposée, avec l'aide de Ramzi Kiroun. à la demande de Mimi Marchand, qui ne voulait pas perdre sa place. Brigitte Macron, ne voulant pas prendre le risque de perdre Mimi, celle-ci fut embauchée à l'Élysée. Ceci, par contre, n'est pas révélé dans le livre Mimi. Et pourquoi donc? Eh bien parce que Lagardère a été le client failli de Macron chez Rothschild et que Kiroun était son homme de confiance. Parce que Mimi est édité chez Grasset, qui appartient à Hachette, racheté par la holding Lagardère Active, laquelle est propriété d'Arnaud Lagardère, et avec Kiroun comme directeur. Oui, je ne sais pas si vous suivez, c'est un peu complexe, oui. Et tout à l'avenant. Et donc personne ne peut tout raconter, sous peine de se faire prendre dans les mailles trop serrées et dangereuses d'un filet bien trop grand. Et voilà pourquoi notre presse est muette. Sur cette structure pourrie de notre soi-disant démocratie. Et si Mimi Marchand a pu vendre les 29 unes à la presse aux ordres, c'est parce que les patrons de ces médias, oligarques bien sûr, avaient tout intérêt à ce que leurs journaux contribuent à ces opérations de communication. Vu qu'ils avaient tous été en relation d'affaires avec le président. D'ailleurs, nul ne bronche quand l'agence Best Image de Mimi Marchand publie dans les revues en question de fausses exclusivités ou de vraies fake news. Et on peut se rappeler comment Vladimir Poutine, obscur argent du FSB-KGB, après un parcours plus ou moins délinquant, s'est retrouvé aux commandes de la Russie, après que l'oligarchie, craignant de perdre ses privilèges, se soit résolue à déguiser cet homme de l'ombre en candidat de la démocratie. Les circonstances étaient différentes, bien sûr. Quoique. Les vérités qui garantissent la démocratie furent là-bas aussi étouffées. Et Anna Politkovskaya paya de sa vie d'avoir voulu faire son travail de journaliste honnêtement. Et ici, personne, même les sceptiques et les méfiants, n'aurait imaginé aujourd'hui des blindés dans nos rues, des mains et des yeux arrachés, à Paris et ailleurs. Et Macron intervient sans vergogne pour commander ou annuler telle émission, pour expulser tel journaliste. On se souvient de la disparition de David Pujadas et de Léa Salamé et Michel Field. Il en imposera d'autres. Il récompensera tel média de ses bons offices. Et vive les inégalités, l'arbitraire et la corruption. En France, on ne meurt pas assassiné quand on est journaliste, mais par suicide ou inanité, étouffé par le pouvoir auquel on refuse de céder. On y meurt de précarité ou de compromission. En France, l'information s'étouffe par l'appauvrissement de la production et de ses moyens. En France, on ne tue pas, puisqu'il suffit de nommer. Alors, quand tant de gens étaient au courant et que personne n'a rien dit, sauf le très courageux Marc Andevelde, dans son ouvrage « L'ambigu Monsieur Macron » et Juan Branco en 2016. Marc Andevelde publie ces jours-ci un complément d'enquête qui s'appelle « Le grand manipulateur » à se procurer d'urgence. Et si vous voulez faire connaissance avec Marc Andevelde, vous pouvez chercher sur YouTube l'interview qui est parue hier soir. Je suis tombée dessus par hasard, je confesse, mais elle vaut son pesant d'or et d'informations vitales. Car Macron, que l'on a pu prendre pour un pantin, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, entre les mains des milliardaires qui ne lui demandent que de protéger leurs intérêts. Macron se révèle plus fort que tous, plus roué et plus insensible. Méprisant le peuple comme personne, il a tout calculé, depuis qu'il a été approché par ses exploiteurs aux fortunes égales à certains budgets d'État. Tous manipulateurs et tous manipulés, copains et coquins intimement réunis par les fraudes, les détournements, les passe-droits, les emplois fictifs et autres escroqueries de col blanc. Jean-Jacques Bourdin a révélé pourtant en interview que le principal bénéficiaire des réformes fiscales de Macron était cet ami intime du président, Bernard Arnault. Et plutôt que de fustiger les protagonistes de cette triste farce que nous payons tous, c'est le journaliste, bien sûr, qui fut honni. Il lui fut répondu par Macron qu'il n'avait pas d'amis. C'est d'ailleurs aussi le refrain de Xavier Niel. « Comme tous les hommes riches, je n'ai pas d'amis. » On en pleurerait. Un ami, pourtant de très longue date, qui avait cru en Macron, l'avait aidé en toutes circonstances, avait mis le premier sa fortune à sa disposition, cet ami-là fut abandonné par le séduisant Emmanuel, qui s'en détourna quand il n'eut plus besoin de lui. C'était Henri Herman, mort en 2016. Il voulait faire de Macron un président. Il ne l'a pas vu aux manettes. Heureusement pour lui, il en aurait été malheureux, car c'était sans doute un honnête homme, Henri Herman. Et ils sont assez rares pour qu'on le signale. Simplement, il s'était trompé, de bonne foi. Il s'était trompé en homme et en avenir. Lui qui avait bétonné à tout va pour faire des centres commerciaux créant des emplois, et qui finançait des fondations culturelles. Un mécène d'un autre siècle. Mais il n'y a pas qu'Henri Herman dans le parcours de Macron, hélas. des amis milliardaires. Pour des politiques, c'est encombrant. Donc on les renie. On s'entre-renie. C'est pratique et sans conséquence dans les relations. Et ça éloigne les suspicions sur les financements de campagnes électorales, les délicates allusions au renvoi d'ascenseurs, les combines diverses. Et Juan Branco se demande où sont les couvertures de magazines annonçant les enquêtes sur les liens de Macron et de Madame avec Xavier Niel, avec Bernard Arnault et sa fille Delphine, compagne de Xavier Niel, et la fameuse Mimi Marchand. Au lendemain de l'apparition du livre Mimi, qui a révélé tant de choses, et Jean-Pierre Jouyet, et son épouse Brigitte Tettinger, et Patrick Drahi, roi du réseau câblé, SFR, etc., et Alain Veil de BFM Télé, et Edith Chabre, devenue directrice de l'école de droit de Sciences Po, dès que la municipalité du Havre, de son mari Édouard Philippe, a accordé à la dite Sciences Po de quoi y construire son campus. Et Nadia Maric, qui, du tribunal administratif, a rejoint Edith Chabre à la direction de Sciences Po après avoir été recrutée par son examinateur au concours de l'ENA, examinateur qui devient vite son mari. Oui, je ne sais pas si vous avez pu me suivre. C'est bien compliqué. J'avais commencé à construire un organigramme avec les liens de tout ce beau monde. Et je m'y suis perdue. Tant leurs amitiés, leurs amours, leur hérédité, leur descendance sont imbriquées, compliquées et mystérieuses. Et nous payons tout ça. Sachez pourtant qu'Ismaël Emelien a utilisé des fonds d'État pour attribuer, sans appel d'offres, des marchés à son précédent employeur, Havas, propriété d'un certain Bolloré. Vous savez bien Ismaël Emelien, le copain d'Alexandre Benalla, qui faisait tant de choses à l'Élysée. Allons bon, il n'y a pas encore prescription. Mais vous savez sans doute que Brigitte Macron vient d'expulser Emelien du palais. C'est déjà ça. Faut pas rêver. Brigitte n'est pas une potiche. Pas du tout, du tout. Et il semble même parfois qu'elle porte la culotte. Et très à droite.
Indiana, Indiana, politiki Oui politiki m'embête A politiki na Politiki kolombare Quell'Indiana
L'Indiana L'Indiana belle tolunda ye L'Indiana 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 belle tolunda ye Namso
Maintenant, si vous vous plongez dans le crépuscule, vous verrez en dernière partie la suite de la Macronie, la suite possible, avec le prochain enfant prodige à monter sur le podium, qui risque bien d'être Gabriel Attal. Alors retenez bien ce nom. À mon avis, c'est une vraie menace. Ça va pas s'arranger tout seul. Voilà, vous retrouverez cette émission en podcast dans la soirée. J'espère que nous serons nombreux à défendre l'enseignement et nos enfants et petits-enfants demain devant l'école à Bagatelle, je crois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est... Je recherche mes notes. Oui, c'est à l'école Georges Bastille, non pas à Bagatelle, mais à Bellefontaine. Alors demain, rendez-vous tous ceux qui peuvent à 8h pour soutenir le collectif de parents et d'enseignants à l'école Georges Bastide contre la loi Blanquer. Merci de votre écoute, merci à vous, prenez soin de vous et à samedi pour de nouvelles aventures.
gaze at the sky.